Le jour où j'ai manipulé mon collègue. Pour les besoins d'une vidéo, en 2019, j'ai installé discrètement une caméra dans mon bureau. Mon idée était de manipuler celui qui est devenu, au fil des années, mon compagnon de l'aventure YouTube, Loïc. Nous allons nous pencher ensemble sur ce souvenir qui est riche en démonstrations et en apprentissage. Dans ce livre audio, je pourrais d'ailleurs aller beaucoup plus loin que dans la vidéo d'origine, qui nécessite toujours d'aller à l'essentiel pour une question de rythme. Le contexte. J'ai rencontré Loïc au YouTube Space à Paris. Cet espace créé par YouTube dans les sous-sols de Google venait d'ouvrir et les créateurs pouvaient utiliser les studios à disposition, rencontrer des personnes et bénéficier de diverses formations gratuitement. Pour moi qui venais juste de me lancer dans l'aventure de la création de vidéos, c'était une mine de ressources pour apprendre vite et bien. Lorsque j'ai passé le cap symbolique des 100 000 abonnés à ma chaîne, en septembre 2016, le Space m'a informé que j'avais le droit, en cadeau, à une journée de formation seule, avec un intervenant, sur le sujet de mon choix. 8 heures intensives avec un professionnel pour m'enseigner des choses sur le sujet que je voulais. J'ai conscience de la valeur de ce cadeau. Et après mûre réflexion, j'ai demandé que l'on m'apprenne les rudiments du logiciel After Effects ainsi que les bases de la colorimétrie. C'est ainsi que je me retrouve le jour J, enfermé dans une pièce sans fenêtre avec Loïc, intervenant pour le YouTube Space, professionnel diplômé de la vidéo. Nous nous entendons bien et il m'explique qu'il connaît mon travail et me propose que nous puissions travailler ensemble à l'occasion, quand j'aurai besoin. En réalité, ce besoin était immédiat, mais je n'avais pas les moyens de m'offrir les services d'un professionnel comme lui. Nous nous sommes revus plusieurs fois au Space, lors d'événements, ou simplement quand je passais prendre un café. Il est toujours stimulant d'aller dans un lieu réel lorsqu'une activité est virtuelle. Et à chaque fois, il me renouvelait sa proposition. Un jour, je lui demande combien coûterait un tournage-montage pour une vidéo standard, entendre par là comme celle que je produisais à l'époque sur la chaîne. Et il m'annonce un prix. Son tarif est clairement réduit au regard des compétences dont il dispose, mais il est explosif par rapport à ce que rapporte une vidéo YouTube financièrement. Je sors alors mon téléphone, entre dans le back-office de ma chaîne YouTube et lui montre combien me rapporte chaque vidéo. Je ne le fais pas pour qu'il baisse son prix, mais bien pour qu'il constate que je le respecte et comprends le coût de ses prestations, mais que mon modèle économique n'est pas viable pour travailler ensemble. Loïc m'explique alors qu'il souhaite avant tout me donner un coup de main. Et voyez-vous, ça n'était pas si clair pour moi. Je pars du principe qu'un professionnel doit être rémunéré, donc il ne me serait jamais venu à l'idée qu'il travaille gratuitement pour moi. D'ailleurs, même si sa proposition est adorable, je ne me sens pas de l'accepter. Je lui propose alors quelque chose de sain et simple. Faisons-le et partageons à part proportionnelle les revenus des vidéos que nous faisons ensemble. C'est ainsi que commence notre aventure. Nos collaborations sont d'abord ponctuelles, puis elles deviennent de plus en plus fréquentes. Loïc arrive avec sa caméra et ses objectifs sur les tournages, je mets à disposition le reste du matériel et j'investis dans un ordinateur pour qu'il puisse faire les montages dans mes locaux. La chaîne se développe, les revenus aussi, et nous changeons de modèle économique en établissant une facture mensuelle fixe que Loïc m'édite contre un volume de vidéos. Je vous raconte tout cela pour que vous compreniez la relation symbiotique qui précède la manipulation que nous allons disséquer. Loïc était important pour moi car il apportait de la qualité sur ma chaîne. J'avais donc besoin de lui. Et même si je n'étais pas son seul client, je lui assurais un chiffre d'affaires mensuel. J'étais donc important pour lui. Pour autant, il n'était pas irremplaçable sur ma chaîne et de la même manière, il n'aurait pas eu de mal à trouver d'autres clients pour me remplacer s'il avait voulu arrêter notre collaboration. Les bons monteurs ou cadreurs monteurs ne manquent jamais de travail. C'est donc sur un équilibre des forces que commence l'action. Le piège. Un jour, j'ai demandé à Loïc si je pouvais, dans un futur éventuel, poser une caméra cachée et filmer une de nos conversations où je tenterais de le manipuler dans le but d'en faire une vidéo. L'idée l'amuse et il me donne son accord de principe. De toute manière, c'est lui qui montrera la vidéo et qui décidera si elle sort ou non. Quelques semaines plus tard, ce jour arrive. Je pose une caméra sur les étagères de la bibliothèque, une négrilla à grand angle qui ne nécessite pas que je vérifie le cadre. Aucune bizarrerie pour Loïc, car je pose souvent une caméra là pour enregistrer une vidéo ou faire un live sur Internet. Je m'assieds à côté de lui. Nous ne sommes que tous les deux et j'attaque le sujet. Depuis plus d'un mois, Loïc me dit qu'il faudrait que nous achetions une caméra. La raison est simple, la caméra qu'il possède lui co-appartient avec Denis, un ami à lui, professionnel également. Ils mutualisent leurs achats et se répartissent l'utilisation en fonction des contrats qu'ils ont. Comme nous tournons de plus en plus souvent ensemble, il y a plusieurs fois où nous sommes bloqués, car Denis a de son côté des prestations et doit avoir la jouissance de la caméra dont il est copropriétaire. Loïc me propose donc que j'achète ma propre caméra pour être sûr de ne plus être bloqué. J'ai déjà de mon côté deux caméras, mais elles n'ont clairement pas les caractéristiques qui font la qualité des vidéos que nous produisons grâce à Loïc. C'est sur ce terrain que je vais attaquer. Loïc est persuadé que je dois acheter une nouvelle caméra, et mon but est de le faire douter de la légitimité de sa demande pour continuer d'utiliser la sienne sans en acheter une. Avant que vous ne commenciez à me détester, je me dois de vous préciser que cette vidéo était sponsorisée par une marque. Entendez par là qu'en échange de la publicité que je faisais pour leurs produits dans cette vidéo, ma société touchait une somme d'argent. J'avais prévu qu'à la fin de la vidéo, j'explique à Loïc ce qui venait de se passer pour lui annoncer qu'avec cet argent, il pourrait acheter la caméra qu'il voudrait. Les intentions étaient bonnes et l'intérêt de l'expérience également puisqu'elle nous donnait un cas d'école à étudier. Tout d'abord, les conditions. Être deux était un point essentiel. Il ne fallait pas que sa peur de paraître faible dans une négociation vis-à-vis d'autres personnes lui fasse gagner en confiance en lui. Ensuite, je suis venu m'asseoir à côté de lui, souriant, pour établir une relation de proximité. Quelqu'un qui veut attaquer ne se met pas à découvert. C'est le message que je lui envoie. Je commence par lui expliquer que, concernant la caméra, je me sens injustement manipulé sur le fait qu'on me demande de l'acheter. Un comble pour celui qui justement entame une grossière manipulation. Loïc est étonné et me demande de développer. Je lui explique qu'il y a une logique. Quand je l'ai rencontré, je l'ai engagé en tant que prestataire, tout autant qu'il m'a accepté en tant que client. Il m'a fait une proposition de facture mensuelle, incluant donc un nombre de vidéos, la prestation de tournage et la prestation de montage. Depuis le premier jour, il vient avec sa caméra et ses objectifs. J'ai donc compris que c'était inclus dans la prestation. Le fait qu'il me demande aujourd'hui d'investir dans une caméra pour libérer celle-ci plus souvent était injuste. Qu'il retirait un élément de sa prestation au bénéfice de son ami avec qui il avait un deal, mais que ça n'était pas de mon fait. Un peu comme s'il retirait sa prestation de montage, par exemple. En gros, j'avais signé pour une prestation complète et il retirait le matériel qu'il amenait en me demandant de compenser ça de mon côté. Avouez que cette manipulation des données a du panache. Même moi, j'ai envie de me croire. Mais je manipule clairement les données de départ. Au final, le fait que Loïc vienne avec sa caméra est un bonus. Ma société produit des vidéos et je l'engage pour une compétence. Loïc vienne avec sa caméra est un bonus. Ma société produit des vidéos et je l'engage pour une compétence, cadreur-monteur. Il n'a jamais été verbalisé que son matériel fasse partie de la prestation. Preuve en est que j'ai investi dans un ordinateur pour lui afin qu'il puisse faire ses montages. J'ai tout ce qu'il faut pour tourner et le fait qu'il ramène sa caméra quand elle est disponible est un bonus pour moi, car elle est plus performante et qualitative que les miennes. Dans le temps, cette caméra est devenue la norme pour tourner mes vidéos, dont le volume a en plus augmenté. Il est donc logique que si je veux en jouir aux jours et aux heures que je souhaite, j'achète avec ma société la même caméra qui resterait au bureau tout le temps. Mais le verre est dans la pomme. Largement perturbé, la logique de Loïc essaie de contre-argumenter sans grande conviction, m'ouvrant ainsi la porte à une nouvelle attaque. Je reste très amical et utilise clairement notre amitié sous-jacente pour monter en pression dans les paliers avec l'assurance que ça ne parte pas en embrouille. Je lui explique que je ne suis pas contre investir dans une caméra, ce qui génère une réaction positive de sa part, mais que, comme nous sommes d'accord sur le fait que cela diminue sa prestation, alors il faut qu'il me baisse la facture qu'il me fait chaque mois. voyez comment j'ai fait semblant qu'il ait accepté mon argument en disant « puisque nous sommes d'accord que », alors qu'il ne l'avait jamais clairement admis. Cette phrase avait pour seul but de lui faire peur et de créer un problème. Ce problème devait devenir sa priorité, son problème principal. Le problème n'était plus que je doive acheter une caméra pour libérer celle qu'il me prêtait, mais comment faire pour ne pas perdre d'argent sur sa prestation. S'ensuit une discussion plus ou moins longue où nous tournons autour du pot. Loïc n'a pas envie d'être moins rémunéré, et je le comprends. Mais je prends mon temps car je veux que cette hypothèse prenne beaucoup de place dans son esprit. Cette possibilité fait partie de ses peurs, et plus il aura peur, plus il doutera de sa confiance, et plus j'aurai accès à sa vulnérabilité pour la dernière étape de cette manipulation. Ça tombe bien, nous y arrivons. Je me fais compatissant au sujet de son problème en lui expliquant que je comprends. Belle hypocrisie au passage, puisque j'ai créé ce faux problème. Je lui dis alors que je vois quand même une alternative. Il faut que lui achète une nouvelle caméra. Je le vois tiquer et j'emploie la technique de l'ennemi commun que nous reverrons plus tard. Je lui explique que c'est évident, que ce n'aurait pas de sens qu'il possède deux caméras, celle qu'il aurait achetée à 100% et celle qu'il partage avec son ami Denis. Logiquement, il devrait demander à Denis de lui racheter la moitié de sa caméra pour que lui s'achète la sienne. Ainsi, chacun aurait sa caméra et ça serait mieux pour lui. Et la solution est plus juste car Denis comme lui ne paie qu'une moitié de caméra au final, pour être enfin propriétaires chacun de leur propre matériel. Je rajoute une couche de vernis en disant que c'est normal pour deux professionnels comme eux d'avoir chacun son matériel, et qu'en plus il s'en sort bien car c'est lui qui aura la caméra neuve. J'insiste enfin sur le fait qu'il va devoir expliquer à Denis qui devra comprendre. Résumons. J'ai créé un problème, puis j'ai créé la solution. Et enfin, j'ai fini par créer un obstacle potentiel à cette solution qui n'était pas moi. Je me suis complètement sorti de l'équation de cette histoire de caméra et je devenais juste celui qui amène des arguments logiques pour les aider à résoudre leurs problèmes. Sympa que je suis. Voyez la perversité d'une manipulation qui s'appuie sur des mensonges, des prémices manipulées. Il suffit ensuite de construire une logique implacable derrière pour que l'ensemble ait l'air solide. L'équation est juste, mais les données de départ ne sont pas les bonnes. Loïc, coriace quand même, n'est pas convaincu entièrement. Je le sens. Je sens aussi qu'utiliser une technique supplémentaire pourrait l'amener à me démasquer et je connais son tempérament. Je vais tout perdre d'un coup. Alors, au lieu de risquer que le château de cartes ne s'effondre, je vais le consolider. Comme précédemment, nous tournons autour du pot en répétant les mêmes phrases. Je consolide et cherche à l'épuiser mentalement. Je sais que son capital de confiance et d'amitié envers moi fait qu'il reste à mon écoute. Une fois que je le vois fatigué de discuter de cela, que je sens qu'il a envie que ça s'arrête, j'offre la solution ultime en disant « Moi, je dis ça m'est égal, à la base, j'ai rien demandé, ça me va très bien que l'on continue comme avant. » C'est vraiment honteux, mais n'oubliez pas que les manipulateurs n'ont pas de problème avec les remords. Je lui montre une échappatoire, « revenir comme avant », à cette conversation anxiogène, où il n'arrive plus à raisonner alors qu'il pressent qu'il y a des choses bizarres. Même cette formulation est manipulatrice, car en utilisant les mots « revenir comme avant », je veux dire en fait « je veux que vous annuliez votre demande et que tout reste en l'état car ça m'arrange. » Content de pouvoir arrêter cette joute d'arguments, Loïc valide ça. D'un côté pour se soulager, et de l'autre parce que ça lui semble somme toute raisonnable. Pour les plus curieux, vous pouvez voir une vidéo reprenant une partie de toute cette manipulation sur ma chaîne YouTube. Il est logique que Loïc lâche à un moment donné. La profusion de manipulations au sein de notre conversation entraîne une confusion mentale et en lui montrant une porte de sortie facile et accessible, il s'en saisit pour échapper à la pression. Cette porte de sortie n'engendre aucune chose négative pour lui, contrairement aux autres solutions que je lui proposais précédemment. Il m'a fallu lui faire croire que j'avais d'autres objectifs pour que mon objectif réel lui semble acceptable. Certains peuvent penser que, Loïc travaillant pour moi, mon statut me conférait une autorité qui faisait qu'il se sentait impuissant pour riposter. En réalité, nous avions une relation équilibrée car je n'étais qu'un client pour lui. Il aurait pu arrêter du jour au lendemain, sans difficulté pour sa société, et ma chaîne aurait vécu un choc suite à son départ. C'était donc bien une symbiose et sa politesse initiale ne tenait qu'à l'amitié et au respect mutuel qui nous lie. Mais si j'avais été son employeur et que j'avais été un manipulateur, il est probable que j'aurais utilisé les mêmes armes malsaines pour aboutir à mes fins. C'est injuste ? Absolument. C'est le propre des manipulateurs dangereux. Grâce à cette anecdote, nous avons pu détailler un exemple concret de manipulation entre deux personnes. Je tiens à souligner que si tout cela avait été réel, alors il est certain que j'aurais abîmé quelque chose dans ma relation avec Loïc. Le capital confiance qu'il avait envers moi se serait réduit. Mais ça n'est pas quelque chose qui va traverser l'esprit d'un mauvais manipulateur qui voit l'autre personne comme un moyen ou un obstacle. Pour lui, seul l'objectif final compte. La bonne défense. Qu'aurait pu faire Loïc contre moi ? Stopper la discussion en me disant qu'il fallait qu'il réfléchisse. Revenir aux fondements, aux causes qui ont créé sa demande initiale. Mais il existe une bonne défense qui est comme un sol glissant pour le manipulateur. Elle ne vous implique pas, ne vous fait prendre aucune décision et a même tendance à désamorcer une situation. Je l'appelle le perroquet qui demande. Elle vous fait gagner du temps pour analyser ou simplement elle laisse la conversation à charge du manipulateur, sans le faire avancer. Dans un premier temps, il s'agit de répéter ce que dit l'autre, mais sous forme de question. Comme si vous demandiez une précision ou que l'on confirme le propos. Vous pouvez même légèrement reformuler, tout en prenant soin de n'ajouter aucun élément nouveau. Après ma première manipulation, il aurait pu dire « Tu veux dire que tu as l'impression que ma prestation n'est plus la même parce que tu dois t'équiper de ta propre caméra ?» Voyez comme cette question me met dans l'embarras. En répétant ce que j'ai dit sous forme de question, on voit l'incohérence de mon propos comme le nez au milieu de la figure. Ce revers m'aurait obligé à reformuler, à répéter ce que j'avais dit, avec peut-être moins d'assurance, et j'aurais fait du surplace dans ma stratégie. À la fin, il aurait pu dire « Ma prestation est donc différente si je ne filme pas tes vidéos avec ma propre caméra. » Il y a de fortes chances que j'aurais abandonné à cet endroit. Dans un deuxième temps, si tant est qu'on y arrive, il s'agit de demander comment faire, ouvertement, d'amener l'autre à trouver une solution à sa place. Souvenez-vous de la force des questions ouvertes où l'on implique l'autre. Le fait de demander une solution claire rapidement oblige le manipulateur à dévoiler son objectif final très vite. Trop vite, car il n'a pas le temps de mettre toute sa stratégie en œuvre. Et on ne peut pas construire un château de cartes en commençant par le haut. Les bases vont manquer, c'est le but. Dans l'exemple avec Loïc, si sa troisième phrase avait été « Mais comment faire pour que tu n'aies pas l'impression que la prestation ait changé ?» Mon but étant de continuer comme avant, j'aurais été obligé de le dire maintenant. Coupant court à tout ce que vous avez entendu précédemment. Quand bien même j'aurais avancé un pion en direction des solutions inacceptables, il aurait juste eu à continuer à faire le perroquet. Tu veux dire que ça serait à Denis et moi de réinvestir de l'argent pour que tes vidéos soient tournées ? La magie de la technique du perroquet est qu'il n'y a pas à comprendre pourquoi les arguments sont mauvais et quels sont les contre-arguments. Le problème et la solution s'affichent d'eux-mêmes grâce à la construction interrogative. Magique. Se transformer en perroquet. Pour terminer cette étude de cas, voyons un dernier exemple rapide. Au sein de votre société, votre collègue vous dit « Ce soir, tu termineras les dossiers de Sylvain. Il est malade et il me les faut pour demain matin. » D'abord, vous répondez « Pardon, tu veux dire que ce soir, je devrais rester autant de temps que nécessaire pour faire le travail de Sylvain ?» Votre collègue va reformuler et peut-être préciser et vous répondrez ensuite « Donc, je devrais finir le travail d'une personne absente parce que toi, tu en as besoin rapidement. » Il va lâcher prise. Car même si vous ne l'avez pas encore formulé, lui va entendre les contre-arguments que vous pourriez lui asséner, les talons d'Achille de sa manipulation. Il entendra ce qu'il dérange le plus sans que vous ayez à trouver ce que c'est. Peut-être croira-t-il que vous sous-entendez que ça n'est pas de votre faute, ou pourquoi ce n'est pas lui qui reste alors que c'est lui qui a besoin, que cette urgence n'est pas réellement indispensable en vérité, etc. Les points à retenir. En résumé, une défense imparable quand vous avez un doute sur une manipulation en cours ou une tentative de confusion, répétez comme un perroquet. Demandez comment faire. Notez bien ces deux étapes et éprouvez-les. Je suis malheureusement certain que vous pourrez les placer aujourd'hui ou demain dans votre vie professionnelle ou personnelle. N'ayez pas peur de le faire, car même si vous paraissez étrange, surtout les premières fois où vous le ferez, ensuite vous gagnerez en aisance, on ne pourra jamais vous reprocher d'avoir posé une question pour être certain de bien comprendre.